L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il décide de faire des faux papiers de ses origines. Il va voir un franc-maçon qui travaille au service social. Il le reçoit, bien obligé, dans son bureau. Un grand bureau moderne avec une grande baie vitrée. L'homme est gros, fort, l'air autoritaire. Il porte un costume marine à rayures verticales, comme portent les francs-maçons. Il s'appelle Morel Auguste. Monsieur fait partie du conseil d'administration de la DAS. Il demande à Adrien, « Que puis-je faire pour vous ?» Adrien, un peu gêné, lui dit, « Eh bien voilà, j'ai un ami qui a besoin de papier pour prouver son identité qu'il est orphelin. Il s'appelle Jules Villeneuve. » Et et lui donne son âge. Cette personne a besoin de papier parce qu'il va passer garde supérieur. Son entreprise lui demande un dossier complet sur lui. C'est un enfant de la DAS. Il est né sous X et a été mis à l'orphelinat. On lui a donné comme nom Villeneuve-Jules. Il a passé sa jeunesse à l'orphelinat et une fois majeur, il est parti et s'est marié avec une fille qu'il a connue à la DAS. Elle aussi est née sous X. Très bon élève, poursuivant ses études et habitant Lyon. Il a eu un enfant, mais malheureusement la mère est morte de l'accident de voiture. Voilà, je vous demande simplement de faire un papier comme quoi Villeneuve-Jules est orphelin, et un papier comme quoi il s'est marié et a eu un enfant. Et si vous pourriez faire un acte de décès pour sa femme, ce serait un service que je vous demande. Je vous ai bien aidé plusieurs fois, alors vous pouvez bien me rendre ce petit service. Morel réfléchit, se dit qu'il l'a aidé à plusieurs avortements, faire avorter 3 filles mineures qu'il avait abusées. Je veux bien vous aider pour ça, ce n'est pas des papiers à falsifier, mais de faux papiers. Bien, j'accepte de faire ce papier. Donnez-moi des informations que vous avez sur ces personnes. Je ferai des papiers qui vous conviendra. Quoique faisant partie d'un conseil d'administration de la DAS, je ne pourrai vous faire officiellement les papiers de Jules Villeneuve et de sa femme. Mais je ne pourrai pas faire des actes de naissance et de décès. Enfin, je vais m'arranger. Adrien est satisfait et lui donne un papier où est marqué toutes les informations qu'il faut pour faire ce papier. En lui disant que s'il a besoin d'un autre service, il est toujours là pour l'aider. Adrien téléphone à Jules pour lui dire ce qu'il a fait et que les papiers ne vont pas tarder à arriver. Mais ne peut pas faire plus car cela risque d'être très dangereux. Jules est heureux. Je te remercie pour tout. Ce n'est rien, mais fais très attention. Je te le promets. Une semaine plus tard, il reçoit par lettre recommandé avec des papiers. Il en fait une photocopie pour son patron, puis les donne à son patron qui est satisfait. Henri montre les papiers à M. Mercier. Mercier est surpris, ne comprend rien. Henri lui dit, « Votre détective privé s'est trompé, et c'est tout. » Et puis, « J'aime énormément Villeneuve, et ce nom est un nom assez courant. » Mercier furieux lui dit, « Normalement, c'est un orphelin. On ne lui donne pas un nom de famille comme ça. On lui donne un nom de famille qui a un prénom. » Henri lui dit agacé, « Cela suffit. Il y en a assez. Cette affaire est close. » Merci, quitte le bureau, pas du tout convaincu. Il reste sur ses gardes. Henri est satisfait et dit à sa femme qui lui dit « Moi aussi, je suis satisfaite. Il faudra inviter Jules et son fils un dimanche à manger chez nous pour lui prouver que nous gardons sa confiance. » C'est ce que fait le patron et Jules est heureux. Il va à l'invitation avec son fils et passe une journée agréable. Le patron a une magnifique maison au bord de la Loire avec des chevaux, etc. Tout se passe très bien, sauf Jules qui a eu très chaud. Mais maintenant, il peut faire ouf. Il n'a rien dit à son fils, et puis, que lui dire? Son fils ne sait rien. Jules et François, malgré ses crimes, restent purs. C'est peut-être que ces crimes ont été faits par amour pour son fils. J'ai dit Jules et François parce que c'est en même temps deux personnes différentes et qui se complètent. Jules ne regrette rien, mais a toujours peur de l'avenir, pour que son fils sache ce qu'il a fait, parce qu'il risque de lui en vouloir de l'avoir enlevé à sa mère. Il est bien avec son fils et son fils semble bien avec lui. Marie est inquiète pour son fils parce qu'elle le sait si fragile. Il lui semble qu'il est en retard pour son âge, physiquement et intellectuellement. Elle a peur pour son avenir. Patrick, maintenant, est heureux avec Marie. Ses faiblesses ne le gênent pas. Comme il n'a pas eu d'enfance malgré son âge, peut-être plus de 25 ans, il fait son enfance maintenant et Marie l'a bien compris. Patrick s'applique pour lire et écrire. Pour les mathématiques, ce n'est pas facile pour lui. Philippe, pris de remords, téléphone, écrit à Marie pour lui demander de faire un test ADN pour voir si c'est vraiment son fils. Elle lui répond inlassablement qu'elle en est sûre et que l'instinct d'une mère ne ment pas. Et puis ce serait pour eux une épreuve supplémentaire. Et Patrick est très fragile. Cette réponse soulage Philippe. Il se dit qu'il ne doit plus penser à ça. Et il s'excuse d'avoir pensé à ça. Un jour, Marie, dans son magasin, voit entrer un homme grand, fort, les cheveux châtains. Il est habillé d'un costume gris foncé et semble avoir dans les 35 ans. Oui, il semble avoir dans les 35 ans. Elle lui demande ce qu'il désire et lui dit « Bonjour madame, je m'appelle Hugo Dupeux et je suis peintre. Une galerie va exposer mes œuvres. Je suis venu pour savoir si vous acceptiez de poser dans votre vitrine cette affiche. » Il lui tend une petite affiche. Elle la regarde et lui dit « Je veux bien. » Il lui dit avec le sourire « Je vous remercie. » Et vous pouvez, si vous le voulez, venir à l'inauguration. C'est mercredi. Il y aura un petit buffet campagnard. Ce n'est pas très loin de votre magasin. Ça s'appelle la Galerie Moderne. » Elle lui dit avec le sourire. « Oui, je veux bien. Je viendrai. Mais c'est à quelle heure ?» Il lui dit à 19h. « Venez, lorsque vous aurez fini... Fermez votre magasin, je viendrai, merci. » Il sourit et la quitte. de la vitrine, elle le regarde s'en aller. Elle le trouve gentil et bel homme. Le mercredi, après la fermeture de son magasin, elle va à l'inauguration de la présentation des œuvres de Hugo Dupeu. La galerie se trouve dans la même rue que son magasin, un peu plus loin. C'est une petite galerie qui est dans un pas de porte. La façade est bordeaux. Elle entre dans la galerie. Il y a quelques personnes. Les gens vont, viennent et parlent entre eux. Il y a dans un coin de la galerie une table pour le buffet. Et accrochés sur les murs blancs, des tableaux. Elle s'approche pour les regarder et voit que c'est de la peinture figurative, très colorée et qui représente des lieux de Paris, des terrasses, de café, etc. Et montrer en évidence des femmes. Elle trouve ça assez joli et très gai. Cela vous plaît? Elle sursaute et se retourne. C'est Hugo. Elle lui dit. Oui, c'est très frais. Et lumineux. J'aime beaucoup. Je suis heureux que cela vous plaise. Je ne sais pas. Je ne sais plus si ce que j'ai fait est bon. J'ai tellement travaillé ces derniers temps pour préparer cette exposition que je ne sais plus. Je suis incapable de juger mes œuvres. Elle sourit et lui dit « C'est normal. Et puis vous êtes l'auteur de vos œuvres. Vous n'avez pas assez de retrait pour pouvoir juger ce que vous faites. » Et puis vous avez tellement sué pour faire ça que vous ne savez plus. Ça vous a tellement fatigué. Il lui dit, je vous remercie, vous avez raison, ça m'a énormément fatigué. J'ai passé des jours et des nuits pour peindre un tableau qu'à la fin j'étais tellement là que je ne savais plus ce que j'avais fait. Mais l'essentiel, c'est que cela plaise aux personnes et à vous. Ça vous a vraiment plu? Oui. Si j'avais les moyens, je crois bien que j'achèterais une de vos œuvres. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Je suis avec un fils qui ne travaille pas et en plus il est malade. Vous voyez, je ne peux pas acheter de vos œuvres, même si elles étaient un prix abordable. Il lui dit, c'est dommage. Elle lui dit, mais peut-être que parmi ces personnes qui sont ici, on va vous en acheter des tableaux. Il lui dit, pensez-vous, des gens sont venus simplement pour boire, manger et aussi se montrer, mais ils n'achèteront rien. Je connais bien ce type de personnes. Ils ne cherchent pas à comprendre mes œuvres. Ils viennent là, c'est pour se faire remarquer, pour se faire voir. Elle lui dit, c'est dommage. Il lui dit, c'est la vie. Elle sourit et lui dit, vous voulez boire quelque chose? Elle lui dit, oui, si vous avez un jus de fruits. Et il l'amène au buffet et lui demande, orange, tomate, pamplemousse. Elle lui dit, pamplemousse, et il la sert. Elle le trouve gentil, bel homme et sûr de lui. En plus, elle trouve qu'il a du talent. Il est vraiment séduisant. Et puis, cela fait longtemps qu'elle n'a pas été séduite par un homme. Lui aussi la trouve gentille, délicate et intelligente. Une fois qu'elle a bu son verre, posé le verre sur la table, elle lui dit, Malheureusement, il faut que je m'en aille. On m'attend à la maison et je n'ai pas prévu que j'aurais dû prévenir que j'allais être en retard. Il lui dit, c'est dommage, vous partez maintenant, pourrions-nous nous revoir? Elle lui dit, surprise et un peu gênée, je ne sais pas. Il lui dit, écoutez, je veux bien vous donner mon adresse, je vous présenterai mon atelier et vous pourrez voir les œuvres un peu mieux qu'ici. J'en ai qui sont même mieux que celles-là. Elle réfléchit, se dit pourquoi pas. C'est un bel homme et qui en plus semble doux et gentil. Alors elle lui dit, je veux bien, merci. Mais je sais que j'aime beaucoup vos tableaux. Il lui dit en souriant, j'espère que vous aimez aussi le peintre. Elle sourit. Il lui donne sa carte de visite. Merci. Et elle se sauve. Elle se dit qu'elle est folle. Aller chez quelqu'un, un inconnu comme ça, et en plus un homme, un beau jeune homme. Il risque de lui arriver quelque chose. Et puis, elle risque de tomber amoureuse de lui. Tomber amoureuse d'un homme, ce serait la catastrophe. Et une semaine plus tard, elle va le voir. Il habite Montmartre. Non, Montparnasse. Un vieil immeuble, très vieil immeuble de 5 étages. L'immeuble est délabré. L'allée ressemble à une allée d'un immeuble abandonné. Il habite au dernier étage parce qu'il y a un atelier dans son appartement. Un peu inquiète, elle sonne. Elle se demande ce qui va se passer. La porte est ouverte. C'est lui, habillé en pull gris, plein de peinture et un vieux pantalon. Il est nu-pied. Il a le sourire et lui dit d'entrer. Elle entre un peu gênée. Il ferme la porte. Il se trouve dans un séjour fait de vieux meubles dépareillés et même un peu cassés. La pièce est vaste. Elle a 2 fenêtres. Le sol, c'est du parquet usé, plein de poussière. Ça sent la peinture. Il lui dit, merci d'être venu. Elle lui dit, lorsque je promets quelque chose, je le fais toujours. Et puis, j'avais envie de voir vos œuvres. Ça m'intéresse beaucoup. Il lui dit, j'espère que le peintre aussi. Elle sourit et ne dit rien. Il la fait asseoir dans un fauteuil en cuir usé. Elle lui demande, « Vous désirez boire quelque chose ?»« Oui, s'il vous plaît, un whisky. »« Non, pardonnez-moi, un Vichy. »« Un Vichy ? Comment ?»« De l'eau simplement de Vichy, rien de plus. » Elle va dans un coin du séjour pour lui chercher ce qu'elle demande. Il revient avec une bouteille d'eau, Vichy et un verre. Elle le lui donne. Merci. Elle boit une gorgée. Elle se sent gênée et se demande si elle n'a pas fait une bêtise en venant ici. et se dit qu'il doit penser que ce n'est pas une femme sérieuse. Ce n'est pas une femme sérieuse, oui. Mais le trouve gentil. Il a un côté doux dans son regard, avec un beau corps. Elle lui demande « Alors ici, c'est ici que vous habitez ?»« Oui, j'aime bien, parce que j'ai de la place. Ce n'est pas formidable, mais enfin, j'aime bien. Et puis j'ai pu aménager mon atelier, et ça, c'est très important. » Vous voulez venir le voir ?» Elle lui dit « Oui, je veux bien. » Elle se lève et lui la conduit au fond de la pièce où il y a un petit atelier et un escalier de bois qui monte. Il lui dit « En plus de chez moi, j'ai réussi à louer le grenier au-dessus. » Et je l'ai aménagé en atelier, parce que celui que j'ai en bas ne me suffit pas. Il monte, elle le suit. En haut se trouve une grande pièce toute vitrée, et même le plafond est vitré. On voit tout Paris de loin, et la pièce est très lumineuse. Il y a des tableaux de partout, dans tous les coins, entorsés contre les murs. Il y a aussi des tableaux sur des chevalets, une table avec des chiffons et de la peinture. Ça sent très fort la peinture. Voilà, c'est ici que je peins mes tableaux. Elle lui dit, c'est vraiment bien. Et puis, vous avez de la place et cette lumière. Pour peindre, il faut de la lumière. Et il lui montre ses tableaux qu'elle trouve très jolis. Ils sont lumineux avec de belles couleurs. Il peint des femmes sur les terrasses, des cafés, marchant sur les boulevards, etc. Une fois qu'il lui a présenté ses tableaux, il lui dit « Ça vous plaît vraiment ? Oui ? Vous en êtes bien sûr que cela vous plaît ? Parce que je veux vous en donner un. » Non, ne vous jetez surtout pas. Je ne pourrai pas vous payer et rien vous donner en échange. Mais non, c'est un cadeau. Il prend un tableau qui est à terre, qui représente les quais de Paris. Tenez, est-ce que cela vous plaît? Oui, merci. Eh bien, il est à vous. Je vous remercie, cela me touche beaucoup. Ils sortent du grenier pour retourner au salon. Elle avait son tableau. Elle est très gênée et se demande ce qu'elle pourra lui donner en échange. Ils s'assoient tous les deux et parlent de leur vie respective. Il lui a dit qu'il n'a pas de famille, que cela ne le gêne pas. Il n'a jamais connu de femme puisque lui ne convient pas. Elles sont trop personnelles, même égoïstes. Elles ne supportent pas que l'on ne s'occupe pas d'elles. Et puis moi, avec une femme, vu comme je vis, je travaille constamment, même la nuit. Vous voyez où je vis? Elle ne pourrait pas supporter de vivre comme ça, au milieu de la peinture et des odeurs. Elle lui dit, cela dépend des femmes. Il sourit. Elle est partie heureuse, car il s'est bien comporté. Ils se sont quittés bons amis. Ils ont décidé de se revoir. Elle a accepté. Lorsqu'elle rentre avec son tableau, elle est gênée. Que va penser Patrick? Elle se dit qu'il vaut mieux qu'elle lui dise la vérité. Elle le retrouve au salon et lui montre le tableau. Elle lui demande « C'est joli ?» Non ? Il lui dit « Oui, C'est très beau. Tu l'as acheté dans un magasin ? Non, j'ai rencontré un peintre qui m'a donné ce tableau. Il m'a invité chez lui pour que je puisse choisir un tableau. Il lui dit, c'est gentil. Il l'a trouvé étrange. Pourquoi lui a-t-elle montré ce tableau ? Il lui dit, je le trouve joli et c'est gentil de te l'avoir offert. Alors, tu vas le mettre où ? Je crois que je vais le mettre dans le séjour. Patrick trouve étrange que l'on offre à sa mère un tableau. Et puis aussi, elle est allée chez une personne comme ça, mais ne dit rien. Les jours passent et un jour, il vient la voir dans son magasin pour lui proposer de dîner avec lui. Elle accepte et prennent l'habitude d'aller au restaurant ensemble à 12 heures. Elle pense constamment à lui et le trouve bel homme et très gentil. Le temps passe, elle pense de plus en plus à lui et croit l'aimer. Cela la gêne, mais en même temps, elle est heureuse. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.